Chapitre 8. Le regard par-dessus le col n'est rien d'autre qu'un coup d'œil, mais si gonflé de plénitude que l'on ne peut séparer le triomphe des mots pour le dire, du triomphe dans les muscles satisfaits, ni ce que l'on voit de ce que l'on respire. Un instant, oui, mais total. Et la montagne aurait cela pour raison d'être qu'il faudrait se garder d'en nier l'utilité pesante. Tout le détour de l'escalade, la déconvenue des moyens employés, ses rancunes sont jetées par-dessus l'épaule, en arrière. Rien n'existe en ce moment que ce moment lui-même. Quelques pas avant d'y atteindre, et l'on s'avoue encore très dominé, très surmonté. Le sentier, qui n'a plus raison d'être fourbe, bute contre la hauteur qu'il doit enfin aborder franchement. Il ne faut pas renverser la tête en arrière et devancer du bon des yeux la marche enfin rythmique obtenue. Il vaut mieux fixer les yeux sur ses pieds que dans le ciel. Ce sont des conseils de route et vulgaires, mais atteindre le but au hasard est plus déconcertant que le manquer, et l'on sait à quel étonnement cela conduit. Il faut saisir le but dans un équilibre tel que l'ampleur en soit balancée et conquise. Il faut rester digne de lui, ni trop reposé jusqu'à l'oubli de la dépense, encore moins époumonné ni épuisé, mais dans cet état désirable où la fatigue est plus que surmontée, dépassée, dans cette ivresse palpitante et dynamique où le corps entier jouit de lui, les orteils, écarquillés comme dans le geste des sculptures antiques, se dilatent dans les sandales serrées aux chevilles. Les épaules et la tête pèsent juste ce qu'il faut sur le dos, et les tempes battent d'allégresse, et le cerveau fiévreux de joie se comprend et se conçoit comme un organe heureux de vivre et digérant avec vigueur sa pensée. Alors, ne pas s'élancer, ne pas s'arrêter, mais donner à point le dernier coup de rein pour s'affermir sur la hauteur conquise et regarder. Regarder avant, en respirant à son aise, en renforçant tout ce qui bourdonne des orgues puissantes et de la symphonie du sang, des humeurs mouvantes dans la statue de peau voluptueuse. C'est ainsi que la possession visuelle des lointains étrangers se nourrit de joie substantielle. C'est la vue sur la terre promise, mais conquise par soi et que nul dieu ne pourra escamoter, un moment humain. Un moment magique, l'obstacle à crever. La pesanteur se traite de haut, la montagne est surmontée, la muraille démurée. Le lieu borné n'a plus tout d'un coup d'autre borne que la feinte prolongée de l'horizon. Deux versants se sont écartés avec noblesse pour laisser voir, dans un triangle étendu aux confins, l'arrière-plan d'un arrière-monde. C'est tout à fait un autre monde. L'on grimpait jusque-là dans les étroits fourrés humides où des sources pétillent partout, avec l'angoisse inverse de la soif, le supplice de l'eau, d'avoir plus à boire que l'on a soif. L'on heurtait souvent un versant vertical trop proche et collé sur les yeux, mais voici que derrière le col, la large vallée descendante recule ses flancs creux et roses, ses flancs désertiques, desséchés par un autre régime des vents et du soleil. C'est de nouveau la promesse haletante des désirs altérés, l'espoir de tendre vers la source, que l'abondance des sources aurait tari. C'est aussi la transmutation dans l'effort. Ayant jusqu'ici tout fait pour élever son corps, l'ayant porté à chaque pas, c'est maintenant le corps qui se déverse, chute et entraîne. L'effort change bout pour bout comme un sablier. Les genoux qui soulevaient vont recevoir. Les jarrets actifs se font amortisseurs. Les bras nagent dans un équilibre entrecoupé de cascades et le regard, précurseur au bond de 10 lieues, plane et se pose à volonté sur cet espace. Ceci est peut-être le symbole physique de la joie. La descente aurait-elle plus de joie que l'effort à la hauteur et cette vertu paradoxale de prolonger ce moment essentiellement bref, le regard par-dessus le col? Non. La descente est une chute déguisée, entrecoupée et sans même la beauté du vertige. La dévalée n'est qu'un emprunt au saut de chèvre, une glissade raccrochée aux pierres et aux ronces. Descendre est voisin de déchoir, et rien ne vaut ce que j'imaginais. Vite, les mouvements nouveaux, répétés et identiques deviennent insupportables. Les genoux se font douloureux, les chevilles tournent et vacillent si je ne crispe la jambe pour éviter, à chaque pas, le faux pas. Alors, le moindre bout de sentier plat est reposant et agréable, et s'il remonte, fait regretter tous les mérites de l'effort ascensionnel. Même si la route n'est point la route, c'est-à-dire impérieusement tendue vers ce point imaginaire, hors des monts et des ravins, l'autre but, volontiers je me retournerai vers la hauteur d'où je dévale pour escalader à rebours et regagner le col. Le dévers a compensé et mis en valeur balancée la puissance montante de l'avers et démontré surtout l'incomparable harmonie, la plénitude, l'inouï de ce moment fait de contraintes, le premier regard par-dessus le col.